Bonjour à toutes et à tous, on est sur la radio Principe Actif, nous sommes les jeunes de la mission locale. Aujourd'hui dans l'émission, nous allons parler du CIBC, Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences. Nous sommes en compagnie de Muriel Moujard.
Bonjour.
Bonjour, directrice du CIBC. Bonjour, comment allez-vous?
Ça va, ça va.
Nous serons ensemble jusqu'à 15h.
Ok, aujourd'hui. Pas de problème.
La radio
Principe Actif, 102.4 FM.
Bonjour Muriel Moujard, pouvez-vous vous présenter ?
Tout à fait, donc, je m'appelle donc Muriel et je dirige deux structures à Évreux qui s'appellent CIBC, donc vous venez de le dire, et également la structure Telle Quelle, qui est une entreprise d'insertion.
Et c'est quoi le CIBC
Alors, le CIBC, c'est difficile à dire, Centre Interinstitutionnel de Bilan de Compétences. Comme son nom ne l'indique pas, on ne fait pas que du bilan de compétences, on essaie d'orienter en fait toutes les personnes qui veulent avoir une évolution professionnelle. Et pour ça, il faut qu'on accompagne les personnes, mais on essaye aussi d'accompagner les structures et les territoires de façon à ce que ce soit plus facile pour elles, parce que c'est peut-être un petit peu facile de juste responsabiliser les personnes en disant bah, « allez-y, réfléchissez à votre projet ». L'idée, c'est aussi d'accompagner, de favoriser, d'essayer de faire en sorte que ce soit le plus évident pour elles et du coup de travailler aussi avec les acteurs du territoire pour qu'ils soient prêts à les accueillir.
Alors, du coup, vous êtes directrice. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi une journée type en tant que directrice au CIBC ?
Il n'y en a pas, c'est ça qui est trop cool. Ça dépend des fois, en fait. La plupart du temps, quand même, une directrice, ça gère des trucs... chiant, faut bien le dire. C'est des fuites d'eau, c'est des problèmes RH, c'est voilà, des choses comme ça qui sont pas forcément rigolos, des achats, enfin voilà, des négociations de trucs. Moi, ce que je préfère dans ma fonction et quand j'ai le temps de le faire, c'est d'être quand même dans la production. Donc à CIBC, on a un laboratoire recherche et développement. Donc quand je peux travailler pour de vrai, je suis sur ces axes de recherche et développement, donc inventer de nouveaux outils, de nouveaux jeux, de nouvelles méthodes de travail. C'est ce qui m'intéresse le plus. Et quand c'est comme ça, bah, j'essaie carrément de pas venir au bureau. Voilà, je reste chez moi et comme ça, ça me donne le temps d'écrire et de réfléchir. Malheureusement, c'est pas très, très fréquent. Voilà, mais sinon, journée type, non, il n'y en a pas. C'est très différent d'un jour à l'autre.
Ok, ça varie. Et quelles personnes peuvent bénéficier du CIBC ?
Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, mais comme dans toutes les structures, il y a souvent des dispositifs qui sont pour des publics particuliers. Par exemple, la mission locale, c'est pour les jeunes. France Travail, c'est pour les demandeurs d'emploi, etc. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'aller chercher des dispositifs de façon à pouvoir accueillir le plus de gens possible sur des statuts différents et de rendre les mêmes services à toutes les personnes. Donc, on va chercher des dispositifs sur lesquels on peut accompagner des allocataires du RSA, par exemple, et on va chercher des dispositifs sur lesquels on peut accompagner des personnes qui sont salariées. Voilà, entre deux, il y a plein d'autres possibilités, mais c'est à nous d'essayer de faire en sorte que chacun puisse trouver son bonheur et puisse venir chez nous. Par contre, c'est pas forcément exactement dans les mêmes cas, etc. Mais nous, en tout cas, on essaye de pouvoir être accessible à toutes et tous, quel que soit leur statut.
D'accord.
Et comment ça se passe le premier entretien pour la personne qui vient au CIBC ? Est-ce que vous avez des mots, on va dire, simples, qui peuvent l'aider, ou vous y allez direct, vous foncez?
Ouais, bon, on peut être simple et foncer, déjà. Justement, ça va dépendre des dispositifs, en fait. Par exemple, les allocataires du RSA, c'est un peu touchy, parce qu'ils nous sont orientés par le département de l'Eure, et ils sont obligés de venir nous voir. Donc forcément, le premier contact n'est pas forcément super cool pour eux, parce qu'ils n'ont pas eu le choix au départ. Justement, l'idée du premier accueil, c'est d'essayer de les détendre un petit peu, d'effectivement dire « Ah ouais, c'est pas sympa, vous êtes obligés », mais en même temps, d'essayer de trouver avec eux le sens que ça peut avoir pour eux, qu'on est là pour les accompagner, qu'on est là pour les aider, mais de fait, ils n'ont pas trop le choix, quoi.
Et le résultat, il est un peu positif ou ils repartent un peu défaitistes ou
Eh ben, ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il y a des personnes, ils n'arrivent pas à sortir de l'idée que c'était obligatoire et que ça les embête. Pour la plupart des gens, on arrive à construire du sens et à leur dire, bah, écoutez, voilà, c'est comme ça, on est vraiment désolé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, pour que ce soit important pour vous et que ça vous permette d'avancer dans ce sur quoi vous voulez avancer. En gros, nous, notre credo, c'est de ne pas imposer à la personne ce qu'elle va venir trouver, c'est de dire, ok, voilà, on est là, on se retrouve là, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, qu'est-ce qui est important pour vous et comment on peut vous aider à avancer sur ce qui est important pour vous. Ce n'est pas forcément l'emploi, par exemple. Voilà. Le département de l'Eure nous envoie les gens pour leur dire, bah, faut sortir du RSA, faut trouver du boulot. Nous, on leur dit pas ça. Quand ils arrivent, on leur dit, ok, qu'est-ce qui est important pour vous? Si c'est que vos enfants, ils soient bien à l'école, bah, on va essayer de travailler là-dessus. Je pense que c'est un peu la posture également de la mission locale. Pour les actifs salariés, c'est très différent. Les actifs salariés, ils viennent nous voir en disant, bah, voilà, mon boulot, ça va plus, je veux en changer. C'est une démarche volontaire à la base. Donc, forcément, le contact, il est pas du tout le même. On va pas proposer le même service, du coup.
Et est-ce que on peut personnaliser le bilan de compétences de chaque personne? Comment ça se passe?
Alors, c'est ce que je viens de vous indiquer. En fait, l'idée, c'est qu'ils arrivent, on dit, ok, qu'est-ce qu'on fait ensemble? Pour un bilan de compétences particulier, le bilan de compétences, il est dit par la loi. C'est-à-dire, la loi nous oblige à avoir 3 phases dans le bilan de compétences.
Qui sont
une phase d'exploration, une phase de plan d'action et une phase de synthèse.
D'accord. Okay.
Et du coup, l'idée, c'est d'essayer de voir avec ces personnes dans quel sens elles veulent explorer, dans quel sens elles veulent prendre le truc.
Est-ce qu'on peut expliquer ce que c'est un bilan de compétences?
Un bilan de compétences, c'est une prestation qui permet vraiment de faire le point sur sa vie professionnelle, mais très largement, pas seulement sur les compétences, alors que ça s'appelle un bilan de compétences, c'est un piège, mais aussi sur ses intérêts, ses valeurs, quelles sont mes priorités, qu'est-ce que je veux trouver dans mon travail. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui viennent parce qu'ils sont en souffrance au travail. Pas seulement souffrance physique, ça peut exister, mais aussi souffrance psychologique. Par exemple, il y a un conflit entre leurs valeurs et ce que leur demande leur entreprise. Je vais caricaturer, mais quelqu'un, un commercial, par exemple, on lui demande de vendre, et lui, bah, il voit bien que des fois, la vente forcée, c'est pas ça, etc. C'est en conflit intérieur par rapport à lui, ce qu'il voulait faire, et ça renvoie à la question, qu'est-ce que je voulais faire quand j'étais petite? Et ces gens-là, des fois, ils ont eu des rêves, ils voulaient soigner, ils voulaient aider, etc. Et ils se retrouvent dans des situations professionnelles, par des hasards, à faire des choses qui leur conviennent pas à eux, personnellement. Grosse interrogation, crise de la quarantaine. Et souvent, malheureusement, c'est des personnes qui arrivent vraiment lorsqu'ils sont en grande souffrance au travail. Ça va plus du tout, quoi. Ils y arrivent plus. Ouais, ils arrivent peut-être un petit peu tard, du coup. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec eux, du coup.
Par rapport aux personnes qui souhaitent changer de profession professionnelle, quels sont les problèmes les plus courants qu'ils peuvent rencontrer?
Le financement. C'est-à-dire, comment je fais pour... si vraiment je veux complètement changer de métier, ça veut dire qu'il va falloir que je parte en formation. Et parfois, des formations longues. Et comment on les finance? C'est de moins en moins évident. Il y avait des dispositifs avant qui existaient, qui étaient déjà pas faciles à débloquer. Aujourd'hui, c'est encore plus compliqué. Donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'en même temps, je suis coincée dans mon job. Et en même temps, si vraiment je veux changer du tout au tout, c'est compliqué parce que ça va demander... je peux pas m'arrêter pendant un an de bosser, quoi. C'est juste pas possible. Donc, du coup, à ces personnes-là, on propose de faire par étapes. On peut imaginer des évolutions professionnelles un petit peu intermédiaires qui vont faire que ça ira mieux. Et puis, en même temps, par étapes, parce que apprendre, c'est pas seulement en formation, on peut apprendre aussi par l'expérience professionnelle. Du coup, changer de boulot, c'est pas exactement ce que je visais, mais ça va me permettre d'avancer quand même dans mon évolution. Voilà, on essaie de faire comme ça, parce que sinon, ce serait génial. Hein. Tout le monde a envie de changer de boulot, il paraît qu'il y a énormément, il y a des stats qui disent 60% des gens veulent changer de boulot. Voilà, on peut pas se permettre de financer tout ça, c'est pas possible.
Qu'est-ce que la VAE que vous proposez?
Alors, là, on change de dispositif. La VAE, ça veut dire validation des acquis de l'expérience. Ça vient certifier, et du coup, la certification, c'est obtenir un diplôme, donc un BTS, une licence, un titre professionnel du ministère du Travail, par l'expérience, c'est-à-dire à la place de partir en formation, d'aller en cours, de passer mon examen, je vais remplir un dossier, ce qu'on appelle un dossier de preuve, où je vais raconter toute l'expérience professionnelle que j'ai fait, ce qui est déjà un gros boulot, hein, parce qu'un dossier, en général, ça fait 50 pages à peu près, donc c'est un gros effort. Par contre, ça m'évite de partir en formation, donc je peux faire ça le week-end, la nuit, hein, si je veux, et à la fin, j'ai le même diplôme que les autres. Donc ça, c'est super pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion forcément de faire les études qu'ils souhaitaient, qui ont eu une expérience professionnelle et qui, au final, bah, se voient valider un diplôme, ce qui va leur permettre justement de favoriser leur évolution professionnelle.
Et est-ce que c'est les VAE sont-ils payants ? Si...
Alors, la VAE, c'est un système alors, quasiment gratuit pour certains certificateurs. Un certificateur, c'est l'organisme qui va délivrer le diplôme. Il y en a plein. Certains font payer le fait de passer le diplôme. Par exemple, les universités, etc.
Mais vous, ce serait gratuit ?
Alors, l'idée, c'est que nous, on ne donne pas les diplômes. On accompagne les personnes dans l'écriture du dossier. Je vous ai dit, c'est quand même assez compliqué. Donc, en fait, ce qui est gratuit pour les personnes, c'est d'écrire le dossier, mais quand même, il est conseillé de se faire accompagner. Par contre, là, pour le coup, les financements, ils sont très faciles à trouver. Donc, en gros, c'est avoir un consultant qui, de temps en temps, va m'aider dans l'écriture de mon dossier. Ça, c'est, les financements sont faciles à trouver. Pourquoi ? Parce que les financeurs de la formation professionnelle préfèrent payer une validation des acquis de l'expérience. En gros, ça coûte 1 500 euros, plutôt que la personne, elle choisisse de partir en formation, où là, ça peut aller jusqu'à 10 000 euros. Donc, c'est, la VAE, c'est un dispositif qui permet de faire des économies sur la formation professionnelle. Donc, du coup, ils ont mis des sous sur le financement de la validation des acquis d'expérience.
Et est-ce qu'avec des partenaires ou avec la région, on peut aider les jeunes à payer leur VAE ?
Leur VAE, bah, c'est, je vous dis, c'est assez facile. Le problème du jeune, puisque vous me parlez déjà, alors c'est pas un problème, hein, c'est que c'est plus compliqué pour lui d'accéder à la VAE, parce que la VAE, ça veut dire on va avoir un diplôme sur la base de son expérience. Ça veut dire qu'il faut une sacrée expérience professionnelle.
Donc quand je dis un jeune, c'est qui est à la vingtaine, par exemple.
Ouais, bah, la vingtaine, en gros, s'il a un an d'expérience dans un métier qui correspond à un diplôme, il faut que ça corresponde, d'accord ? Ben oui. Pas de souci, c'est assez facile d'accès. En plus, en amont, il y a ce qui s'appelle un point relais conseil VAE. Donc ça, c'est pareil, c'est gratuit pour justement être conseillé sur la VAE, avoir toutes les informations qu'on veut et pouvoir justement voir si son expérience, elle correspond à un diplôme et lequel.
Alors, vas-y.
Pardon, Ambrane.
Non, t'inquiète pas.
Une personne qui sait pas trop, elle voudrait changer de travail, elle sait pas trop où aller, est-ce qu'on va privilégier plutôt un bilan de compétences ou une validation des acquis ? Est-ce que les deux peuvent un peu...
Alors, c'est complémentaire, en fait. Ouais. L'idée, c'est, avant de faire une VAE, moi, mon conseil, ce serait de dire, bah, déjà, il faudrait se poser la question de savoir où on va. Parce qu'en fonction d'où on va pas forcément choisir le même diplôme, la même certification. Par contre, une personne qui a une volonté de se réorienter professionnellement, il y a d'autres... Je suis désolée, je complique au fur et à mesure. Il y a d'autres dispositifs qui existent. Le bilan de compétences, c'est vraiment pour les personnes qui ont tout à mettre à plat. D'accord ? Avant ça, il y a un dispositif qui est totalement gratuit, très facile à mettre en œuvre, qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle. Je n'ai pas appris le numéro de téléphone par cœur, je ne peux pas vous le donner là. Mais c'est... Voilà, vous avez rendez-vous. Alors, c'est pour tous les actifs. Ce qu'on appelle un actif, c'est une personne qui peut travailler. Le conseil en évolution professionnelle pour les jeunes, c'est la mission locale. Le conseil en évolution professionnelle pour les personnes qui sont en recherche d'emploi adultes, vous êtes des adultes quand même, hein, mais adultes plus de 25 ans, c'est France Travail. Et pour tous les autres actifs qui sont en emploi, il y a le conseil en évolution professionnelle avec un numéro de téléphone et ça peut être emploi conseil, enfin, CIBC emploi conseil à Évreux et puis d'autres partout en France entière. Et ça, c'est vraiment un service gratuit qui est pris en charge par l'État.
Juste, j'aimerais revenir un petit peu sur le CIBC. Uh-huh. Alors, vous êtes directrice,
ouais.
Et dans cette direction, vous avez des employés.
Tout à fait.
Ah bah oui. Mais que font-ils les employés ? Ce sont des conseillers ? Quelles sont les conditions pour entretenir les personnes qui bénéficient ? Ou comment ça ? Est-ce qu'il y a-t-il autre chose ?
Alors, au CIBC, il y a en gros plusieurs services. Il y a le service d'accompagnement individuel. Donc là, souvent, c'est des personnes qui ont fait au moins en partie une formation de psychologue. Ils n'ont pas forcément le titre de psychologue, mais ils ont fait au moins une licence, un master en psychologie. En général, tous les salariés, ils ont un niveau master. Okay. Et on a un service qui est le labo CIBC, que j'évoquais tout à l'heure.
Juste précision, le master, c'est Bac plus 5.
Tout à fait. Ouais. Et au labo, pareil, master, mais on est plutôt sur sciences de l'éducation. Voilà, moi, je suis sociologue, par exemple, de formation, et on a des masters ingénierie, par exemple, de l'IAE de Caen. Voilà. Donc, il y en a qui accompagnent et il y en a qui réfléchissent et qui produisent de nouveaux outils pour accompagner.
Très bien.
Voilà.
Je vous propose qu'on fasse une pause musicale avant de revenir ensemble juste après.
Écoutez Raïl avec la chanson Fables.
Alors, du coup, on va continuer sur. On va reprendre sur le bilan de compétences. Mm-hmm. Du coup, après un bilan de compétences, y a-t-il un suivi ?
Tout à fait. En fin de bilan de compétences, la personne, elle aboutit à un plan d'action. Donc, c'est un plan d'action qui est très détaillé. Quel organisme je dois aller voir, quelles démarches je dois faire, je vais les faire quand. Il y a toujours au moins deux plans, un plan principal et un plan B, au cas où il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on voudrait. J'obtiens pas mon financement ou on ne m'accepte pas dans une formation, etc. Et du coup, elle repart avec vraiment des étapes à mettre en place. Et en fait, on lui dit à la fin du bilan, vraiment, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des difficultés dans la mise en place de ces étapes. Et de toute façon, on la rappelle 4 mois après, 6 mois après, en fonction du plan d'action, pour lui demander, voilà, vous en êtes où ? Est-ce que ça s'est bien passé ? Si elle rencontre vraiment beaucoup de difficultés, justement, c'est là où le bilan peut être complémentaire avec un conseil en évolution professionnelle. On peut la réorienter vers un conseil en évolution professionnelle qui va l'aider, qui va faire intermédiation, en fait, avec les organismes, qui va pouvoir appeler pour arranger un petit peu les problèmes qu'elle peut rencontrer et favoriser le fait que son plan, effectivement, se mette en place comme elle le souhaitait. Voilà. Après, il n'y a pas de magie, hein, c'est-à-dire faut qu'on arrive à un plan réaliste. Voilà, il y a des personnes, le plan réaliste, il ne leur plaît pas vraiment. Faut pas vendre du rêve, quoi. Voilà. Et il y a des personnes, elles aiment bien rester dans le rêve. Voilà. On n'est pas des briseurs de rêves, mais quand même.
Quel impact ça a, les entretiens au CIBC ?
Briseurs de rêve ou autre ?
Oui, c'est ça. Le truc, c'est que comment on perçoit, en fait, déjà comment on arrive, dans quel état d'esprit on arrive. Il y a vraiment des personnes qui arrivent en nous disant « Mais vous allez me dire ce pourquoi je suis fait. » Alors déjà, il y a une idée derrière de vocation, comme si on avait quelque chose au-dessus de notre tête, on est fait pour quelque chose. Ça, c'est déjà un petit peu un rêve en soi. Et le bilan, il va donner ce que la personne va y mettre. C'est-à-dire que si la personne, elle ne fait pas de recherche, elle ne rencontre pas de professionnels pour découvrir un petit peu les métiers, etc. Certainement, elle va être déçue par son bilan. Mais en même temps, nous, vraiment, notre credo, que ce soit pour les salariés, les personnes en recherche d'emploi, peu importe qui, c'est pas de faire à la place des gens. C'est-à-dire, faut vraiment qu'ils soient engagés dans leur parcours professionnel. C'est pas les aider que de faire à leur place.
Et ces suivis peuvent durer combien de temps ? C'est une estimation ou...
Alors, ça dépend des dispositifs. Un bilan de compétences, par exemple, ça s'articule en général sur 3 à 4 mois, d'accord ? Pour les personnes qui sont au RSA, par exemple, on a des suivis de 2 ans, parce que y a des grosses problématiques sociales parfois à gérer avant même d'aborder la question de l'emploi. Ça peut durer très longtemps, on se laisse le temps, nous on n'est pas pressé. Encore une fois, l'idée, c'est qu'il faut que ça aille à la vitesse de la personne. Parfois, si on brusque, on casse tout. Donc, autant pas trop y aller fort.
Et concernant les personnes qui ne bénéficient pas du CPF, donc pour rappel, c'est le compte professionnel de formation, quels seraient les moyens que vous puissiez leur proposer ?
Alors, pour un bilan de compétences, il y a quasiment... Alors, ils peuvent se faire financer par leur employeur. Ok, donc ça c'est... Alors déjà, il y a des personnes, il faut savoir, ils n'ont pas de CPF. D'accord. Ou alors c'est géré par l'employeur. C'est le cas des personnes qui sont en recherche d'emploi. C'est un peu Pôle emploi qui gère leur CPF. France Travail, pardon, je ne me suis pas encore mise.
Moi non plus.
Et pour les fonctionnaires, par exemple, pareil, dans la fonction publique, c'est l'employeur qui peut seulement financer le bilan de compétences. Donc il faut qu'il veuille bien. Sinon, encore une fois, depuis 4 ans, il y a le Conseil en évolution professionnelle qui est vraiment super important. Je trouve que c'est pas assez connu. Vraiment, tout le monde peut avoir un conseil sur son évolution professionnelle, sur une formation, quel que soit son statut, et ça c'est cool.
Alors, on va sortir du bilan de compétences, on va parler de simulation de début d'entrepreneuriat. J'ai croisé une fille qui s'appelle Chloé et elle souhaite ouvrir une entreprise de bougies où elle créerait des bougies avec sa sœur. Et elle est jeune et elle souhaite savoir comment elle pourrait construire cette entreprise, si vous avez des conseils à lui transmettre.
Alors, nous, on n'est pas vraiment spécialistes. Vraiment, l'entrepreneuriat, c'est très particulier. Il y a des acteurs qui sont vraiment spécialisés là-dedans. Moi, vraiment, le premier conseil que je donne, on n'est pas sur l'aspect business plan, finance, machin. Il y a des acteurs qui sont bien mieux que nous sur ce sujet-là et en plus qui ont des sous pour aider à lancer les projets. Donc, autant aller voir les acteurs qui ont des sous. Par contre, moi, le conseil que je pourrais donner, c'est aussi se poser la question de la compétence. C'est-à-dire, est-ce que véritablement, Il y a des référentiels qui existent de compétences entrepreneuriales. Voilà, pour être chef d'entreprise, qu'est-ce qu'il faut comme compétences et on ne les a pas toutes, bien entendu. Personne n'est parfait ici, ni dans cette pièce, ni ailleurs. Et l'idée, c'est du coup, comment je peux m'entourer pour avoir toutes les compétences qui me sont nécessaires pour avoir une entreprise. Voilà, donc si je suis mauvaise gestionnaire, ce n'est pas grave. Par contre, je vais m'appuyer sur qui pour la gestion. Si je ne suis pas créatif, je ne vais peut-être pas faire des super bougies, mais par contre, faut que je sois conseillée aussi par rapport à ça. Voilà, d'essayer de voir tout le spectre et de voir quels sont mes points forts et du coup, comment je peux être accompagnée par ailleurs.
D'accord. Est-ce que vous, au CIBC, vous travaillez avec des partenaires, vous avez des partenariats ?
Alors, on en a plein. Déjà, parce qu'il faut qu'on puisse donner les meilleurs conseils aux personnes et justement les orienter. On vient de parler de la création d'entreprise en fonction du statut, par rapport à la mobilité, par exemple, ou par rapport à des problématiques particulières. Il faut qu'on envoie les personnes vers les meilleurs acteurs. Je pense que c'est ça, finalement, même que ce soit pour les personnes ou pour une structure, l'autonomie, en fait, c'est ça. L'autonomie, c'est pas de se dire qu'on peut tout faire tout seul. L'autonomie, c'est bien connaître les gens qui sont autour de nous, qui peuvent nous aider. Voilà. Et du coup, on est pareil que les personnes qu'on accompagne. On ne sait pas tout faire. Éventuellement, on a de la méthodo, mais on n'a pas toute l'expertise sur tout. Ce n'est pas possible. Et c'est obligé de travailler en partenariat autour de nous pour donner le meilleur conseil, orienter vers la meilleure personne.
D'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de la ludopédagogique.
Pardon. La ludopédagogique.
Alors, la pédagogie, déjà, moi, c'est quelque chose auquel je tiens absolument, c'est de réfléchir à comment on va accompagner une personne de façon à ce qu'elle puisse prendre les décisions par elle-même et maîtriser un petit peu son environnement, c'est-à-dire développer ses compétences et son sentiment de compétence. C'est deux choses différentes. On peut savoir faire et pas penser qu'on sait faire. Okay, développer également son sentiment de contrôle sur les choses. Quand je fais un truc, il se passe ça et c'est bien et c'est grâce à moi. Voilà. Il y a tout ça et ça, on y arrive avec la pédagogie, c'est-à-dire comment on fait pour que les personnes elles soient en conscience par rapport à ce qu'elles font et qu'elles réfléchissent à ce qu'elles font. Pour ça, il y a plein d'outils, et nous, on adore la ludopédagogie, c'est-à-dire on utilise le jeu pour accompagner les personnes. Je vais prendre un exemple concret, le jeu vidéo, par exemple. Dans le jeu vidéo, lorsqu'on pratique le jeu vidéo, on développe plein de compétences. Ok, FIFA, on s'organise, pour certains jeux, on cherche des informations, on s'oriente dans un monde virtuel, etc. Tout ça, ce sont des compétences. Ok, donc l'idée, c'est de partir de ça pour dire, ok, super, vous avez développé plein de compétences. Déjà, conscientiser ça, que quand on joue aux jeux vidéo, il y a de la compétence. Et de s'interroger après, dans un deuxième temps, sur, ok, qu'est-ce que je vais faire de toutes ces compétences? Et finalement, de transférer ce sentiment de compétence, je sais faire des trucs, c'est pas, voilà, alors que, je sais pas, mes parents m'ont dit, je suis un gros fainéant, je joue aux jeux vidéo toute la journée, n'empêche, tout ça, c'est de la compétence. Et du coup, qu'est-ce que je vais en faire pour éventuellement aller travailler mon projet d'évolution professionnelle?
Et quelles seraient, avec les compétences, jouer à FIFA ou à PES?
C'est de l'organisation. Alors moi, je joue pas à FIFA personnellement. Non. Tu joues à FIFA?
Non, moi je joue à PES.
Alors je connais pas. Mais FIFA, je connais pas non plus finalement. Mais j'ai un collègue qui a fait des émissions Twitch sur et j'ai regardé les replays. En fait, j'ai découvert un truc de fou. C'est vachement de questions. Enfin, il y a toute une équipe de foot à gérer, etc. C'est du management, quoi. C'est du management. Donc, l'idée, c'est qu'il faut réussir à mettre des mots là-dessus de comment je m'organise, c'est quoi mes critères, pourquoi je choisis tel joueur et pas tel autre, etc. Et tout ça, c'est de l'organisation. Je fais exactement la même chose quand je recrute, en fait. C'est les mêmes... Non, mais sans rire, c'est les mêmes compétences. Juste, on passe du virtuel au réel, et du coup, ça n'a pas forcément les mêmes impacts. Genre, dans un jeu, tu meurs pas en vrai, tu peux recommencer. Dans la vraie vie, tu meurs. Voilà, clairement. Donc, la ludopédagogie, c'est des situations un petit peu sécures, où effectivement, il peut se passer n'importe quoi, on peut se planter, c'est pas grave. C'est pas pour autant qu'il n'y a pas de la compétence. Donc effectivement, quand on passe à la vraie vie, il faut avoir conscience que nos actes ont des impacts, mais n'empêche que les compétences, c'est les mêmes. D'accord ? Donc l'idée, c'est de faire du lien de façon à, déjà, à partir d'où sont les gens. S'ils savent jouer aux jeux vidéo, on part de ça. J'ai pris cet exemple-là, mais ça peut être, je sais organiser un repas pour 50 personnes, il y a de la compétence. Je sais m'occuper de mes 6 enfants, il y a de la compétence. Voilà. Et nous, on a choisi de travailler sur le jeu physique, plateau, ou jeux vidéo.
D'accord, et pour rappel, nous avons l'émission Principe Gaming qui est diffusée un mercredi par mois sur Principe Actif et sur Twitch.
Bah génial, je vous enverrai mon collègue.
Et bien, sur ça, je vous propose qu'on fasse une dernière pause musicale.
Kill switch indifference to a liquid narrative. Obviously, I tried writing you out of the will. I just hadn't the guts to lie through my teeth, though only because I'm susceptible to the truth on the bleakest of moons. And though there is a beauty in a whole truth, the knotty roots of a shameful past will never let it be. Each new shoot is an escape route, loot the debris. And make no mistake, we are living out our last days in the land of the blind, where the one-eyed man was king until he lost his fucking mind. Hey! Cram crummy hands into empty pockets, a quick whip round for the long-suffering house band, whilst peace treaties are breached, so we can fuck about half-naked on the beaches of some far-off foreign land. We all get a commemorative 50 pence piece each for the peace treaties breached and the palms greased that are never on the ends of the elbows digging the graves of the deceased. Please, have a seat. I'm gonna show you all a magic trick. It's sort of a surprise. So, if you just lend me that 50 pence piece in your hand and then close your eyes. I'm going to make me and this 50 pence piece disappear.
Venez d'écouter Yardak, Land of the Blind. Du coup, bah, on va continuer avec vous. On va parler un peu de votre métier. Qu'est-ce que vous aimez dans le métier que vous faites ?
Alors, ce que j'apprécie le plus, c'est la diversité et c'est le fait de pouvoir, du coup, prendre des décisions pour les structures et de donner une véritable orientation à ce qu'on veut faire. C'est-à-dire, je fais que ce qui me plaît. Ça, c'est cool, le fait d'être directrice. Alors, je travaille avec mes collègues, bien entendu. On ne l'a pas dit, mais CIBC, c'est une SCOP. Une SCOP, c'est une société coopérative qui signifie qu'en fait, l'entreprise, elle appartient aux salariés. C'est les salariés qui prennent les décisions pour eux-mêmes. Donc, en fait, j'ai été élue gérante. Bon, il n'y avait pas d'autres candidats, en fait. Ils voient bien que, des fois, c'est un peu pénible d'être directrice. Donc, j'ai été élue gérante à l'unanimité, ce qui est avec moi. Mais ce qui me plaît le plus, ce n'est pas du tout de dire aux autres ce qu'ils doivent faire, c'est de donner une orientation, en fait, de poser des valeurs et de poser des grands principes d'action pour avancer tous ensemble. Voilà, ça me plaît. Après, voilà, c'est pas toujours évident, mais c'est ça qui me plaît le plus.
Et quels avantages et désavantages vous donneriez à votre métier ?
Comme tous les chefs d'entreprise, C'est difficile parce que c'est le même revers de la médaille, c'est-à-dire il y a des choses qui se passent, des financements qui changent, des marchés qu'on perd. Et il faut toujours. L'idée, c'est d'équilibrer, hein, c'est de faire en sorte que la structure elle survive. Donc quand ça nous arrive, on se dit waouh, pénible. Et en même temps, c'est ça qui fait que c'est intéressant. C'est-à-dire c'est un challenge à chaque fois de se dire ok, il faut qu'on arrive à équilibrer. Il faut qu'on ait de nouvelles idées. Là, par exemple, on vient de déménager, on a créé un tiers-lieu, on en parlera peut-être. Donc tout ça, c'est super. Et en même temps, c'est pour répondre à des difficultés au départ. Donc sincèrement, chaque chose peut être vue comme un désavantage et un avantage. Bon, je travaille énormément, mais j'adore mon job. Donc il y en a qui verraient les heures que je fais, ils se diraient waouh, c'est chaud. Mais en fait, moi, ce que je fais en général, je l'aime bien. Donc voilà, mon boulot, c'est un peu mon loisir. C'est un peu bizarre.
Et pourquoi vous avez choisi de faire ce métier de directrice ?
Alors figurez-vous, j'ai pas choisi. Moi, au départ, j'ai fait des études de sociologie. Donc, moi, je voulais sauver le monde, hein, clairement. J'avais une petite ambition. Et je suis devenue, je vais pas vous faire l'histoire, mais je suis devenue conseillère en insertion. D'accord. Donc, je suis rentrée dans la structure dans laquelle je suis il y a 22 ans, figurez-vous, cela ne nous rajeunit pas. Et à un moment donné, la directrice est partie. A décidé elle aussi de faire une reconversion professionnelle, figurez-vous. Et du coup, ils se sont tous tournés vers moi en disant « Hey, Muriel, tu vas reprendre le truc ». J'ai paniqué gravement, je peux vous le dire, pendant 3 jours. J'y suis allée parce que il n'y avait personne d'autre, effectivement, qui pouvait y aller, qui voulait y aller. Il m'a fallu un an pour me dire « Ok, finalement, je suis capable, j'y arrive, ok, tout va bien ». Il ne s'est pas passé de catastrophe, mais... je pense que c'est des fonctions de responsabilité. Alors, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, moi, ce n'était pas des responsabilités que je voulais. C'était faire des choses intéressantes et construire quelque chose. Et ma foi, ça va avec les responsabilités. Voilà. Mais je n'ai pas peur des responsabilités, mais sur le coup, je n'étais pas fière quand même.
Okay. On va revenir un peu sur vous plus tard. On va parler un peu de Tel Quel.
Oui.
Quand on a vu sur le site que vous nous parlez de Tel Quel, pouvez-vous nous en dire un peu plus? Quels seraient les jeux objectifs, les profils des salariés qui font Tel Quel, hein.
Tel Quel, c'est une entreprise d'insertion qu'on a créée il y a un peu plus de 2 ans. En fait, on a eu l'opportunité d'un marché parce que il fallait répondre à un besoin que les CIBC avaient en France et il fallait répondre au téléphone. Donc au début, on a mis une salariée sur le coup vraiment pour parce qu'il fallait ils avaient besoin, il fallait répondre, rendre service. Puis au fur et à mesure, le service il a un petit peu duré, il est même monté en volume et tout ça, et du coup on a employé une personne en contrat aidé pour répondre au téléphone. Et à un moment donné, on s'est dit « Hey, on pourrait en embaucher plus, en fait. On peut monter en volume et en embaucher plus et créer une structure d'insertion par l'activité économique, c'est-à-dire à côté d'accompagner les personnes pour chercher un boulot, leur donner du boulot. » Alors, l'idée, c'est qu'on leur donne pas seulement du boulot dans une entreprise d'insertion, on les accompagne également à aller trouver un autre boulot qui leur plaît mieux et qui soit plus durable. Donc, tout ça pour dire que Tel Quel, c'est une plateforme de réception d'appels téléphoniques. Donc, on a actuellement, je crois, 9 ou 10 salariés en insertion qui répondent au téléphone. Ils ont un mois de formation avant d'être en capacité de bien conseiller au téléphone, etc. Puis il y a des outils un peu logiciels à gérer en même temps. Et après, ils répondent au téléphone et ça leur donne à la fois un emploi, donc clairement, ça veut dire des sous. Alors, ils sont à temps partiel, c'est pas des salaires mirobolants, mais pour certains, ils avaient rien du tout, donc ils sont plutôt contents. Et à la fois, un accompagnement qui leur permet, pareil, de travailler sur leur projet, mais ils sont tout le temps avec nous. Ils mangent avec nous le midi, etc. C'est clairement aussi un accompagnement social au quotidien, et vu qu'on les voit tous les jours, s'il y a un problème, on le sait tout de suite, c'est plus facile, on agit tout de suite, voilà. Et donc, ce que je voulais dire par rapport à Tel Quel, c'est qu'on est tout le temps en recrutement. Donc voilà, n'hésitez pas à venir vers Tel Quel. Ça passe par un truc qui s'appelle la plateforme de l'inclusion. Voilà, il faut aller voir sur Internet et on peut déposer sa candidature ou en parler à la mission locale ou en parler à France Travail. La complexité du truc, c'est qu'effectivement, il y a des prérequis, lire, écrire, s'exprimer correctement, parce qu'au téléphone, il faut qu'on soit compris quand même. Mais les critères ne sont pas beaucoup plus élevés que ça. Voilà. Mais néanmoins, on a toujours des recrutements à faire parce que bah, y a des gens qui sortent, bien heureusement pour eux, qui vont bosser. Donc on a un turnover tout le temps qui est présent. Voilà, donc n'hésitez pas à postuler.
D'accord.
Avec grand plaisir.
Du coup, on va revenir pour finir sur votre métier. Uh-huh. Alors, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes fière de ce que vous avez accompli en tant que directrice ?
Est-ce que vous accomplissez encore ?
Au quotidien, on voit les difficultés, on voit voilà sur les trucs qui nous tombent sur la tête tous les jours. Moi, je fais l'effort régulièrement avec les collègues. Donc, je vous ai dit, on est en scope, on fait énormément de réunions, on n'arrête pas de se réunir pour voir les orientations qu'on veut prendre, les décisions à prendre, etc. Et des fois, on fait vraiment tous les ans, les années et demie, un point sur OK, tout ce qu'on a fait. Et en fait, quand on se retourne, on se rend compte qu'on a fait plein de trucs vachement sympas. Il faut prendre le temps, en fait, de regarder derrière soi, déjà pour mieux savoir où est-ce qu'on va avancer, mais aussi pour se dire, hey, cool, on a fait des super trucs. Donc là, par exemple, le dernier truc dont je suis très, 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 très fière, et du coup, j'en parle au micro, c'est la création du tiers-lieu, qui s'appelle La Boîta, qui est la rue Ducie, en ville à Évreux.
Pouvez-vous nous en parler un tout petit peu de La Boîta ?
Mais carrément, mais avec grand plaisir, puisque j'en suis fière.
Super.
C'est un tiers-lieu qui est dédié à la ludopédagogie. Donc,
mais celle qu'on a parlé...
Tout ouais. à fait. Ouais. Donc c'est ouvert, par contre, essentiellement aux professionnels, en fait, aux personnes qui veulent utiliser la ludopédagogie dans leurs actions d'accompagnement, de formation, d'insertion. Ça pourrait être ouvert aussi, on n'a pas encore eu le cas, mais à des citoyens qui veulent utiliser la ludopédagogie, pardon, pour faire passer des messages. Et à la Boîta, on a des professionnels, des ingénieurs pédagogiques, en fait, qui vont accompagner les personnes dans la mise en place de ces parcours ludopédagogiques. Et on a plein de boîtes de jeux, on a des jeux vidéo, on a une PlayStation, on a une Switch et tout. Trop bien. Conditions de travail maximum. On peut jouer à Animal Crossing pendant le temps du déjeuner. Voilà. Et c'est un lieu, en fait, où on reçoit des groupes, souvent de professionnels, pour les accompagner dans la prise en compte de la ludopédagogie et comment utiliser la ludopédagogie, soit pour travailler la compétence, soit aussi pour travailler les comportements. Par exemple, il y a des jeux sur les addictions, des jeux sur le développement durable, pour que les personnes y pensent davantage à l'écologie, etc. Comment on utilise le jeu pour changer les comportements.
Mais ça fait type américain quand même, ce que vous nous racontez. Parce que souvent, dans en Amérique, surtout aux États-Unis, les entreprises, ils ont un côté jeu vidéo ou un côté on se n'importe quoi et d'un autre côté on
Alors
travaille.
Alors là, c'est pas le jeu, il n'est pas là pour s'amuser, alors, sauf sur le temps du déjeuner, on fait ce qu'on veut, ok. Mais le jeu, il est utilisé, comme je le disais tout à l'heure, pour la pédagogie, c'est-à-dire on joue aux jeux vidéo, ok, mais derrière, comme là la radio en fait, vous êtes en train d'utiliser la radio comme un outil pédagogique, c'est-à-dire il a fallu que vous prépariez des questions, derrière vous allez débriefer l'émission, j'imagine, comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'elle a raconté comme bêtise, comment, voilà, et ben c'est ça, nous on fait ça avec le jeu. En fait, on ne fait pas l'émission de radio pour le plaisir de faire une émission de radio. On le fait pour essayer de valoriser les compétences qu'on a développées en faisant l'émission de radio. Éventuellement, en préparant des questions, on a réfléchi à tout un tas de trucs. On a découvert des nouvelles structures, etc. Voilà, c'est ça. Nous, on utilise le jeu de la même façon.
Je l'ai dit, la radio, nous, c'est comme si on faisait un métier, même si officiellement, c'est juste du volontariat. Mais concernant les jeux vidéo, c'est là pour quel ? C'est pour... s'amuser, c'est pas pour faire un métier ou quoi que ce soit.
Non, mais je suis pas sûre que tous les jeunes qui sont là pour faire, c'est peut-être pas toujours.
C'est de la passion. Hein.
Oui, mais pas pour tous. Enfin, là, je connais pas bien ce dispositif-là. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec la mission locale du Centre Manche sur un web média. Ils avaient web radio et web TV. Les jeunes, ils voulaient pas tous être animateurs de radio. C'est un outil qu'ils utilisaient pour que les jeunes puissent réfléchir à leurs compétences et voir comment ils allaient faire pour mobiliser ces compétences dans d'autres métiers. Ils veulent. Sinon, il y aura trop d'animateurs radio dans cette affaire. Sinon, je vous le dis, moi, il y a pas assez de débouchés pour tout le monde. Voilà. Et ben nous pareil, c'est peut-être pas un métier de jouer, mais par contre c'est un outil pédagogique, ça c'est clair. Voilà.
Et y a-t-il d'autres projets à venir qui seront mis en place par la CIBC?
Alors, très certainement, là, mes collègues, ils m'ont dit Muriel. En 2023, on s'est transformé en SCOP, ok? Donc, énormément de travail, que ce soit d'un point de vue économique, juridique, organisationnel. On a créé le tiers-lieu, on a déménagé les deux structures. Ils m'ont dit, en 2024, tu te reposes, tu arrêtes. Ceci étant dit, je me connais un petit peu et je sais bien que c'est pas si évident que ça. Donc notamment par rapport aux jeux vidéo, on a vraiment très très envie de faire quelque chose. Puis nous on a de l'ambition, hein. On va refaire une émission, on va faire un podcast en fait. Et on a commencé à contacter Squeezie et tout. On va faire des trucs un peu sympas avec des professionnels du jeu vidéo.
En voilà. Espérant qu'il va vous répondre.
Mais qu'il a intérêt, mais gravement. Alors forcément, on est passé, on réseaute un petit peu. Hein. On n'a pas juste écrit sur.
Il y a des millions de gens qui leur proposent.
Ouais, voilà, là, on a des gens qui connaissent des gens qui connaissent des gens. On essaie de faire comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire, sinon ça avance pas, que ce soit pour le professionnel ou autre chose. Voilà, mais effectivement, il va pas se passer grand chose en 2024. 2023, voilà, c'était oui. Déjà pas mal. Faut que j'arrête, hein, parce que tout ça, ça coûte cher.
Eh bien, merci beaucoup Muriel Mougia. Je vous propose qu'on inverse un peu les rôles. Vous avez 3-4 questions devant vous et je vous laisse les poser aux deux jeunes qui vous ont interviewé.
Ou d'autres. De jeux vidéo, vous jouez ou pas?
Ah bah tellement.
Et est-ce que tu as identifié des compétences quand tu as joué aux jeux vidéo?
Aucune compétence. Non, moi mon but c'est de jouer, de m'amuser.
Non mais je te dis pas, c'est ton but. Oui, je te dis, est-ce que tu es compétent?
Oui.
Est-ce que tu as des compétences quand tu joues aux jeux vidéo?
Mais les compétences, c'est-à-dire comment on organise
cette
émission? Oui. Alors moi, je joue pas du tout à FIFA. Je joue à PES, mais ça fait un long moment que je joue. Pro Evolution Soccer, c'est le rival de FIFA. Et en fait, d'accord. C'est un peu le jeu de foot, mais avec un peu de management. Donc un peu voilà.
Ah bah voilà, donc il y a de la compétence là.
Oui, mais j'en faisais pas tellement. Moi, j'y joue beaucoup à des jeux qui sont pas conseillés à moins de 18 ans. Je pense
il y a de la compétence quand même.
Je pense pas que Grand Theft Auto soit
là,
bien.
Là, on a un jeune qui a fait une émission qui a fait un podcast sur machin fight. Il y avait fight dans le titre.
Oui.
Voilà. Et le respect.
Ouais, il va comme un peu le MMA par exemple. Ou
voilà. Sur, et ben il a fait le lien avec le respect. Donc qui est pas une compétence, qui est une intention. Voilà. Donc c'est possible. C'est possible. On en rediscutera. Tu viens
discute. Parce que je suis très étonné qu'on peut trouver des compétences au fait.
Partout. Là on est en train
c'est
de développer.
Ce que je retiens de cette interview.
Train de développer des compétences. Des compétences, elles sont partout. La seule chose, c'est voilà, le conscientiser et de savoir ce qu'on en fait derrière.
D'accord.
Ok. Et du coup, c'est quoi votre projet à tous les deux? Donc toi, tu m'as dit animateur tout à l'heure, et toi?
Moi, je suis en recherche d'emploi.
Bah sur quoi? Tu sais pas?
Dans la vente. J'ai arrêté les études sur l'institut supérieur, mais ça me plaisait pas. Donc j'ai arrêté.
Et tu veux vendre quoi?
Textile, dans la vente de textile.
D'accord. Bon, c'est chaud à Évreux.
Mais... Ouais.
Tout le monde a envie de partir d'Évreux, mais je leur dis, reste à Évreux. C'est vous qui va créer votre entreprise de demain. Mais oui, donc me concernant, animateur, récemment avec Principe Actif, j'ai fait une semaine de stage il y a 2 ans et j'ai fait quelques émissions avec eux en presque 3 ans. Et je les remercie infiniment. Donc après ça, je suis parti un peu à Paris à la rencontre des gens de la télé, de la radio, plus précisément à Europe 1 et compagnie. Je vais pas les citer tous, mais c'était un bon moment. Donc en espérant qu'à la rentrée, je puisse faire un métier, une passion.
Tout à fait, mais après, voilà.
C'est très compliqué, les jeunes, ils sont... parce que j'avais entendu un très célèbre animateur qui disait que, voilà, il y a de moins en moins de jeunes qui s'intéressent à la télé, à la radio, en pensant que la radio va disparaître. Non, la radio va rester éternellement. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire les trucs qu'on trouve sur Internet qui peuvent partir à tout moment. Je dis
d'accord.
Ça comme ça, ouais.
Okay. Parce que, c'est un discours décalé par rapport à ton âge, mais pas de soucis.
C'est à tout âge.
T'écoutes la radio?
J'écoute la radio sur Internet, j'ai pas de poste radio.
Tu viens de dire qu'Internet allait disparaître.
Non. YouTube et compagnie. Attention, nuance. C'est YouTube et
les... Bon, j'y crois pas, c'est à l'instant. Mais c'est pas grave, on n'est pas là pour... C'est pas une
mon
débat,
avis personnel. Après, on peut écouter la radio sur Internet. Il y a des sites comme principactif.net que les gens peuvent réécouter l'émission.
Je me réécouterai.
Grand plaisir.
Cool. Et toi, t'écoutes la radio?
Non.
Non. Moi, j'écoute France Info. C'est même pas super rigolo, mais c'est vachement intéressant. Oui, c'est bien, c'est bien. Mais vive la radio, tout à fait. Après, l'idée, c'est aussi de garder des médias. Peu importe le média, moi, j'ai envie de dire. On va faire une émission de débat, moi, je vous propose. Hein. Peu importe le média, l'idée, c'est qu'il faut que ce soit des médias qui soient un peu libres. C'est-à-dire qu'on puisse dire ce qu'on veut dessus et que ce soit ouvert à tous.
Voilà. Je vous rejoins entièrement.
Voilà, okay. Et ben on est tous d'accord, c'est trop, trop bien.
C'est vrai.
Voilà, je ne sais pas, est-ce que j'ai d'autres questions? Oui, qu'est-ce que vous retenez de cette interview?
Les jeux vidéo.
Ah, les jeux vidéo, ça t'a choqué, quoi.
Ah oui, qu'on peut trouver des compétences sur ça. Alors, si quelqu'un trouve une compétence à partir de Grand Theft Auto, qu'il m'appelle.
Parce que là, je ne connais pas, mais je suis prête à relever le défi.
Oh, malheureusement, certains, ils ont trouvé, mais je préfère pas trop en parler.
Mais tu sais, on a fait l'évaluation de compétences en prison. Voilà, il y a des actes qui sont complètement délictueux dans lesquels il y a de la compétence. Il y a beaucoup d'organisation, beaucoup de négociations. Voilà, c'est beaucoup d'argumentation.
On voit ça.
On peut avoir des compétences dans des actes illégaux et de loisirs, même si c'est pas très...
C'est pas très, corporate, pas très cathodique.
C'est pas grave, on s'en fout, pas cathodique. Et toi?
Moi, j'ai appris ce que c'était le CIBC parce que je connaissais pas du tout.
Ok.
Du tout. Mais du coup, maintenant, j'en sais un peu plus. Bon. Merci.
Voilà. Donc, si tu veux alors, répondre au téléphone, c'est pas forcément super rigolo, mais être accompagné dans ton projet en gagnant quand même un petit peu de sous à côté d'un salaire, n'hésite pas à venir à Tel Quel si tu veux avoir une petite parenthèse financée pour réfléchir à ton projet.
D'accord. Je vous remercie.
De rien. Merci à tous.
Merci à vous.
Eh bien, merci Muriel. Et je crois que c'est toi, Omran, qui est le mot de la fin.
Je remercie infiniment Muriel Moujard, directrice du CIBC, d'avoir accepté de répondre à nos questions et que l'on ait pu répondre à vos questions à la fin. Nous étions les jeunes de la mission locale d'Evreux. J'étais en compagnie de Lia. Vincent est aux commandes de l'émission. Et voilà, donc merci infiniment. Vous pouvez retrouver l'émission, comme j'ai dit, sur le site principactif.net. Et oui, on peut écouter les podcasts sur internet. Ça va pas partir. Merci infiniment et à très bientôt sur Principe Actif.
Au revoir.
Au revoir. It's time for healing, beaten down and physically bleeding.